Laudetur Jesus Christus.
Pour sortir de la crise sanitaire, le pape défend la subsidiarité. Il faut remettre au centre ce principe bafoué, a-t-il plaidé lors de l'audience générale, car il est nécessaire à la reconstruction d'une société, laquelle doit inclure tous ses membres, compte rendu dans quelques secondes. L'autre actualité principale de ce mercredi, c'est la présentation du nouveau pacte pour les migrations et le droit d'asile de la Commission européenne. Cette réforme amorcée veut défendre un mécanisme de solidarité obligatoire entre pays de l'UE. Le sujet clivant promet des discussions complexes. Nous avons besoin de vous et du rempart de vos consciences. Plus d'une centaine de médias français publient une lettre ouverte à leurs concitoyens, les enjoignant à se mobiliser plus que jamais pour la liberté d'expression en soutien à Charlie Hebdo, qui a reçu de nouvelles menaces d'Al-Qaïda. Et puis au Sri Lanka, le parti au pouvoir renforce sa mainmise. Il veut instaurer un régime présidentiel avec prérogatives étendues. Beaucoup craignent la fin de la démocratie sur l'île.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. Comme tous les mercredis depuis quelques semaines, l'audience générale permet au pape François de continuer sa série de catéchèses sur « Guérir le monde après la pandémie ». Le souverain pontife a invité aujourd'hui à se pencher sur le principe de subsidiarité, depuis longtemps mis en avant par l'Église, pour que personne ne soit laissé au bord du chemin. Xavier Sartre.
Il n'y a pas de vraie solidarité sans participation sociale, sans la contribution des corps intermédiaires, des familles, des associations, des coopératives, des petites entreprises, des expressions de la société civile. Le pape François souligne avec force que les contributions d'en bas doivent être encouragées, qu'il faut écouter même les plus humbles, qu'il ne faut pas faire pour le peuple, mais avec le peuple. Or, on a tendance à écouter davantage les grandes compagnies, les grands groupes pharmaceutiques, au détriment des mouvements sociaux ou des agents de santé, sans parler de certains dont la voix est étouffée ou ignorée, comme les peuples autochtones, ou d'autres qui n'osent pas s'exprimer ou qui répriment leurs convictions religieuses. Pourtant, pour mieux sortir d'une crise, le principe de subsidiarité doit être appliqué en respectant l'autonomie et la capacité d'initiative de tous, en particulier des derniers, explique alors le pape. Chacun assume un rôle et cette mise en œuvre donne espérance dans un avenir plus sain et juste que nous construisons ensemble, en aspirant aux choses plus grandes, en élargissant nos horizons. On agit ensemble, ou ça ne fonctionnera pas, ou on travaille ensemble pour sortir de la crise à tous les niveaux de la société, ou nous n'en sortirons jamais. Mettons en garde François.
Xavier Sartre, le pape qui a adressé un message aux éducateurs catholiques philippins réunis pour leur congrès annuel en mode virtuel. Crise sanitaire oblige. 1500 écoles catholiques de l'archipel sont représentées. L'éducation catholique doit enseigner non seulement l'esprit critique, mais aussi la formation à la doctrine et à la morale chrétienne. Le pape invite donc tous les formateurs à être d'authentiques témoins de la foi. 5 ans après la crise des réfugiés, la Commission européenne dévoile aujourd'hui son nouveau pacte pour les migrations et l'asile. Une réforme censée rendre obligatoire la solidarité de tous les pays de l'UE. Ou comment remplacer le très contesté règlement de Dublin, clé de voûte du système actuel, et qui confie au premier pays par lequel un migrant pénètre en Europe la responsabilité du traitement de sa demande d'asile. Alors cette réforme très attendue mais plusieurs fois repoussée devra être endossée par les 27 États membres et le Parlement. Or les discussions s'annoncent difficiles. Pierre Benazé.
Le nouveau pacte pour l'asile et la migration de la Commission européenne a été adopté ce mercredi matin par les 27 commissaires européens lors de leur réunion en collège. Un pacte qui doit créer une solidarité obligatoire entre les 27 pays de l'Union européenne. On se souvient des problèmes après la crise migratoire de 2015-2016 pour faire jouer la solidarité en particulier avec les pays d'Europe centrale et orientale, ceux du groupe de Visegrad. Il y aura désormais la possibilité d'une contribution flexible, donc pas d'idée de relocalisation par quota obligatoire comme ça avait été proposé en 2015 et 2016 et qui avait provoqué une levée de boucliers en Europe centrale. Maintenant, les pays qui ne veulent pas prendre de demandeurs d'asile pourront aider les autres pays qui en accueilleront, par exemple en les aidant pour le retour des migrants. Il y aura un mécanisme de solidarité, par exemple pour le débarquement des migrants. Il y aura aussi pour eux un statut immédiat à l'arrivée. Après un filtrage sanitaire, il y aura aussi un filtrage de leur statut en quelque sorte pour que les migrants sachent immédiatement s'ils peuvent espérer avoir une demande d'asile acceptée un jour dans l'Union européenne. Et sinon, les retours seront accélérés de manière immédiate après l'arrivée dès ce premier filtrage. L'espoir de la Commission européenne est que le Parlement européen et le Conseil des 27 États membres puissent adopter d'ici la fin de l'année ces propositions. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
La cérémonie s'est déroulée à huis clos. Alexandre Loukachenko a prêté serment pour un sixième mandat à la tête du Bélarus devant un parterre de hauts dignitaires triés sur le volet. Le choix de la discrétion donc, alors que cette réélection le 9 août dernier donne lieu à un vaste mouvement de contestation populaire. Alexei Navalny est sorti de l'hôpital. Le principal opposant russe avait été admis dans une structure berlinoise après un empoisonnement suspect au Novitchok. Son état s'est amélioré et Navalny est libre de rentrer en Russie. C'est le Kremlin qui le déclare ce matin, souhaitant au passage un bon rétablissement à l'opposant. L'initiative est inédite. En France, une centaine de médias, journaux, radios et chaînes de télé publient ce mercredi un manifeste, une lettre ouverte aux citoyens. Alors que le procès des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère se tient en ce moment, que de nouvelles menaces sérieuses visent plusieurs membres de l'hebdomadaire satirique, le monde journalistique interpelle les Français. Il les appelle à faire corps, à s'ériger en rempart pour défendre la liberté d'expression. Marie-Christine Bonzon.
Le jour de l'ouverture du procès des attentats de 2015, qui y avait tué 17 personnes, dont 12 au sein de sa rédaction, Charlie Hebdo a republié les caricatures de Mahomet au nom de la liberté de la presse. Lundi, la directrice des ressources humaines du journal satirique a dû quitter son domicile pour une durée indéterminée à cause de menaces d'attentats jugées crédibles et sérieuses par les autorités. Qualifiant les menaces en question de véritables provocations en plein procès des attentats, Rice, le directeur de Charlie Hebdo, affirme, et je cite, que ces menaces visent aussi tous les médias et même le président de la République. Aujourd'hui, Le Monde, Le Figaro, L'Humanité et une centaine d'autres médias français, de gauche et de droite, expriment leur solidarité avec Charlie Hebdo et appellent les Français à défendre la liberté d'expression. Publié à la une de Charlie Hebdo ce matin, leur lettre ouverte estime, et je cite, qu'à travers le journal satirique, c'est tout l'édifice juridique élaboré pendant plus de 2 siècles en France pour protéger la liberté d'expression qui est attaquée. Les signataires demandent au pouvoir public de déployer les moyens policiers nécessaires pour assurer la défense des libertés. Ils appellent aussi le gouvernement français à condamner fermement les États qui soutiennent le terrorisme. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
Après de nouveaux meurtres survenus la semaine dernière, les évêques de Colombie se disent consternés, bouleversés par la liste des assassinats qui s'allonge inexorablement depuis des mois dans le pays. Des agressions toujours plus atroces contre la vie et la dignité des personnes, disent-ils. La fin de ce mécanisme de mort requiert l'engagement de tous, citoyens et pouvoirs publics. Il n'est pas possible de parvenir à la paix sans défendre la vie. C'est peut-être la fin de la démocratie au Sri Lanka. Hier, le gouvernement a déposé un amendement constitutionnel qui va instaurer un régime présidentiel et quasi-dictatorial sur l'île. Le SLPP, le parti au pouvoir, jouit d'une majorité des 2/3 au Parlement. Le texte devrait donc être approuvé sans trop de difficultés. Ce changement de régime pourrait fragiliser la stabilité politique du pays. Les précisions d'Emmanuel Derville.
Le président Gotabaya Rajapaksa en avait fait une promesse de campagne lors des législatives en août. Avec l'amendement présenté mardi au Parlement, il tient parole. Lorsque le texte sera voté, Gotabaya Rajapaksa aura presque tous les pouvoirs. Il pourra nommer le Premier ministre, les juges, le procureur général, les membres de la commission électorale. Il pourra aussi dissoudre le Parlement et soumettre un projet de loi à référendum si les députés le rejettent. Surtout, le président n'aura plus l'obligation de promouvoir la réconciliation nationale, un changement qui pourrait être lourd de conséquences pour la paix intérieure. Le Sri Lanka a connu 25 ans de guerre civile entre Tamouls et Cingalais. Gotabaya Rajapaksa avait été l'un des principaux artisans de la victoire contre les Tamouls en 2009, au prix de nombreuses exactions. Le renforcement de ses pouvoirs risque d'attiser les divergences entre les deux ethnies. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Et avant de se quitter, un coup d'œil au prix Sakharov du Parlement européen qui récompense chaque année des personnalités ou organisations qui défendent les droits de l'homme et les libertés. La liste des nominés a été publiée et parmi eux se trouve l'archevêque de Mossoul, Mgr Najib Mikael, frère dominicain, qui a sauvé des milliers de manuscrits précieux des mains de l'État islamique lors de l'invasion de la plaine de Ninive en 2014. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre écoute fidèle. C'est Marie Duhamel que vous retrouverez aux commandes du journal de 18h ce soir. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain, 8h30.